Je me présente comme anthropologue parce que c'est la formation que j'ai reçue à la fin, mais si je devais dire vrai, je dirais socio-ethno-anthropologue, parce qu'en fait j'ai commencé une formation ici à Brest, à l'UBO, il y a plus de 20 ans, en sociologie et ethnologie. Après je suis allée à Rennes, là il n'y avait pas l'anthropologie, il y avait juste la sociologie, donc c'est ça que j'ai fait. Après je suis allée à Aix-en-Provence, j'ai fait l'anthropologie médicale, et mon doctorat c'est au Québec et c'est de l'anthropologie. Donc voilà, j'ai un parcours un peu mixte, sciences sociales en fait. En fait je devrais m'appeler scientifique sociale plutôt qu'anthropologue. Donc ma matière humaine, j'ai travaillé sur plusieurs choses différentes. Je me suis beaucoup intéressée aux interactions du quotidien, à l'éthique ordinaire, c'est-à-dire les valeurs que les gens utilisent au quotidien dans différents domaines. J'ai fait du travail de terrain en Haïti, à Sainte-Lucie, donc dans la Caraïbe, et aussi au Québec. J'en avais fait en Bretagne avant. Je m'étais intéressée aux plantes médicinales, à la phytothérapie, tout ça. Donc c'est assez varié, mais finalement il y a un fil qui relie un peu tout ça, c'est les inégalités en fait, sociales, raciales, inégalités de genre et les formes de discrimination qui peuvent exister dans différentes sociétés et comment les gens répondent à ça en fait, comment ils résistent ou pas, comment ils se défendent dans une situation où ils sont dominés, marginalisés, voilà. Donc c'est des gens en situation irrégulière d'immigration, c'est des travailleurs et travailleuses du sexe, c'est beaucoup de gens en fait qui vivent dans des situations très très difficiles et qui sont, leur position fait qu'ils sont au carrefour de plein de formes d'oppression, de domination, et ils sont vraiment à plusieurs niveaux, mais ils ne sont pas privilégiés quoi. Donc c'est à ces gens-là moi quand je pense à des gens qui n'ont pas la parole. J'ai travaillé avec beaucoup de gens différents, autant des gens qui, par exemple, qui étaient accusés de faire le mal ou de faire des pratiques de sorcellerie dans la Caraïbe, que des jeunes racisés, noirs ou autochtones qui vivent du profilage racial au Québec, que des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui sont en situation de détresse aussi, des femmes victimes de violences. Donc c'est assez vaste en fait. Et comme je disais tantôt, c'est parce que mon intérêt finalement, bon, c'est de changer le monde. Voilà, comme ça. Mais travailler pour plus de justice sociale, de justice raciale, pour un accès à l'égalité, en fait. Parce que pour moi, la façon dont je conçois la recherche, c'est une recherche active, une recherche militante, engagée. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est de me mettre au service, finalement, moi et mes recherches, au service d'une plus grande justice, quoi.
Puis, est-ce qu'il y a, par exemple, des points communs entre tous ces gens que tu as rencontrés ou pas du tout
Oui, je pense que oui. Et puis c'est aussi des points communs. Des fois, on pense beaucoup à la différence, puis notamment dans cette discipline-là qu'est l'anthropologie, où on est censé étudier beaucoup les différences. Mais en fait, il y a beaucoup de similitudes et de similarités, notamment dans le quotidien, parce qu'on est, on a tous un quotidien, plus ou moins routinier, plus ou moins régulier. Après, on a tous une façon de le percevoir ou de faire avec, d'être content ou pas de son quotidien. Donc c'est vrai que si on se met à avoir une discussion sur c'est quoi ton quotidien, disons qu'on va vite trouver des similarités en fait avec les gens. Donc de rien prendre pour acquis en fait, parce qu'on pense des fois savoir les choses sur les gens, et en fait non, on en découvre beaucoup de choses, mais on pense aussi savoir des choses sur nous-mêmes, et on se retrouve dans une situation d'entretien où comme anthropologue on fait du terrain de longue durée, donc on se pensait comme ça jusqu'à un moment donné, et là on se retrouve en fait non, on n'a pas du tout réagi comme ce qu'on avait prévu. Donc ouais, la surprise, la curiosité, c'est ça, c'est que on a aussi des comportements paradoxaux. Enfin, on va dire quelque chose, on va faire autre chose, puis ça c'est pas spécifique à un groupe ou à un type de personne. On est tous comme ça. On essaie tous de négocier une façon plus ou moins intègre de vivre, quoi, en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui se recoupent, en fait, quand on fait ce genre de travail.
Et comment est-ce que tes recherches aident les gens, alors, à ton avis ?
Comment ça aide ? C'est une question difficile, parce que, en fait, je sais pas si je dois non plus dire que je fais ça juste pour aider. C'est pas aider le terme que j'utiliserais, mais c'est pour... Déjà, je pense que, par exemple, si je pense à mon travail comme enseignante ou formatrice, moi, un de mes outils, un de mes objectifs, c'est de faire que les gens réfléchissent aux stéréotypes qu'ils ont en tête, Et on a tous des stéréotypes. Donc c'est d'en prendre conscience et après, éventuellement, je suggère de les combattre, ces stéréotypes-là, et de faire en sorte qu'ils n'existent plus, ou au moins qu'on en ait conscience. Donc ça, c'est par exemple en termes d'enseignement. Donc c'est une manière de rendre, de produire une action, en fait, par rapport à ça. Donc après, en termes d'aide, là, je sais que, par exemple, les derniers écrits et travaux que j'ai faits, c'est préparer des rapports d'expertise. Donc c'est c'est comme une recherche, mais en un temps assez court pour des avocats et avocates. Donc, dans un contexte, c'est en Angleterre. Donc, c'est des personnes en situation d'immigration et qui sont sujets à déportation. Donc, des personnes originaires de Sainte-Lucie. Parce que, comme j'ai fait des recherches là-bas, on m'a appelé comme expert pour parler du contexte saint-lucien. Et du coup, des personnes qui arrivent en Angleterre et qui, finalement, au bout d'un certain nombre d'années, se font déporter. Donc, vont consulter un avocat. Et en fait, ces avocats-là ont besoin d'experts, comme ils ont besoin de médecins ou de psychologues. Finalement, ils recourent à des anthropologues ou à des experts sociaux, en fait, pour évaluer les risques de retourner au pays, quoi. Donc du coup, moi, j'écris des rapports adaptés à la situation de la personne. Donc j'ai accès à son dossier.
C'est des risques de quel ordre ?
Pour un retour au pays ? Mais par exemple, pour des gens qui ont été témoins de meurtres ou quelque chose comme ça, ce qu'il faut savoir, en tout cas pour une petite île comme Sainte-Lucie, c'est que c'est très petit. Et du coup, c'est quasiment impossible de rester anonyme dans un endroit petit comme ça. Et c'est vrai que c'est assez facile de retrouver quelqu'un. On sait avant même qu'il est atterri, qu'il va atterrir et tout ça, tout ça. Et ça, par exemple, c'est une idée que les juges, en tout cas, n'ont pas forcément conscience. En fait, ils pensent, ils réfléchissent de leur bureau londonien et ils n'ont pas idée que ça peut se passer comme ça. Donc c'est ce genre d'expertise, mais c'est aussi sur l'accès aux ressources. Par exemple, si c'est des femmes qui ont demandé le refuge sur la base de violences conjugales, par exemple, là, c'est à moi d'évaluer à partir des ressources que j'ai sur est-ce qu'elles auront accès à du soutien psychologique, du soutien financier, toute forme de soutien quand elles retourneront là-bas. Donc moi, je fais une évaluation à partir des documents que j'ai, à partir des connaissances que j'ai, et puis je rends mon rapport et mon opinion, en fait. Donc c'est le genre de travail que j'ai pu faire ces dernières années.
Et alors, tu étais ici à longueur d'onde parce que l'intitulé de la conférence de tout à l'heure, c'était avec Radioactivité, c'était l'impact du fait de poser son micro. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est l'impact, vu du point de vue d'une anthropologue en tout cas?
Je peux en parler là parce que j'ai un micro devant la bouche. Mais en fait, quand on a une formation comme ça en anthropologie, notamment pour le terrain et comment on doit travailler. Finalement, on a beaucoup de formations sur comment poser des questions, quel type de questions sont plus intéressantes que d'autres, dépendamment du sujet qu'on aborde et tout. Mais disons que l'utilisation du micro, c'est pas un indispensable dans ces recherches-là, parce qu'il y a des recherches, des sujets qui sont plus difficiles à aborder. Le micro, ça va empêcher la personne de parler. Au contraire,
c'est vrai. Ouais. C'est quelque chose que tu as constaté.
Ouais, moi je l'ai constaté dans une entrevue qui a duré une demi-heure parce que je l'ai arrêtée finalement. Pour moi, au début, la personne fixait le micro sur la table pendant tout le long de l'entrevue et j'entendais bien que ce qu'il me disait, ça avait rien à voir avec ce que j'ai entendu par ailleurs, quoi. Donc voilà, là par exemple, j'avais arrêté et puis finalement, j'ai revu la personne après. On a parlé de façon informelle. Donc oui, il y a un effet du micro. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour certaines personnes qui sont plus habituées à être devant des micros, ça va pas changer grand-chose. Et puis que de toute façon, on se raconte toujours un petit peu, d'une façon ou d'une autre, même quand on parle à notre famille, à nos amis. Je veux dire, on met en avant un certain côté de nous qui est plus brillant et on va laisser de côté les petites choses dont on ne veut pas parler. Et ça, on le fait tous au quotidien.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des gens aussi, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que quand il y a un micro, ils vont faire leur star ou ils vont se lâcher à fond.
Oui, c'est ça. Et puis on en a discuté justement parce qu'avec les gens de Radioactivité, ils expliquaient qu'il y a aussi le micro comme ça, un côté formel ou quasiment institutionnel en fait. il y a des gens qui vont l'utiliser en disant, bon ben voilà, je vais prendre le temps pour passer mon message. Et notamment dans ce qu'elles ont fait avec des travailleuses du sexe à Marseille, ben, elles ont pris le micro, les travailleuses, et elles ont dit, nous on veut parler au gouvernement, donc on va en profiter maintenant, donc voici ce qu'on dit au gouvernement. Et en fait, elles se sont appropriées le micro pour ce qu'elles pensaient que le micro pouvait faire, c'est-à-dire de faire entendre leurs paroles à des membres du gouvernement, et puis elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Donc c'est vrai que c'est un outil, et finalement c'est un outil que des gens s'approprient ou non, que ça reste un outil, le micro, en fait. C'est pas comment dire, c'est pas un problème en soi ou une qualité en soi, c'est la façon dont on l'utilise aussi. Après il y a aussi des relations de pouvoir qui peuvent exister. Quand la personne, elle tend un micro, elle arrive, elle pose sa question sans même savoir qui est la personne en face. Elle lui impose une façon de penser, des mots à utiliser. Moi, je fais souvent l'exercice quand on pose une question, justement, de reprendre et de dire, mais non, la question que tu poses, je ne peux pas y répondre parce que la façon dont tu la poses, ça implique que ta, alors que moi, je pense en dehors de ça. Donc, je fais souvent l'exercice parce qu'en fait, c'est un art aussi de poser des questions qui soient assez ouvertes pour que les personnes se sentent libres d'aller à l'intérieur un peu où elles veulent. Et des fois, dans certaines recherches, je ne pose même pas de questions. Je suis là, on me pose des questions parce qu'on se demande ce que je fais là. Et du coup, je rebondis et puis je fais des relances. Moi, je fais beaucoup des relances, en fait. Et j'aime beaucoup ça parce que, en fait, les gens qui sont en face ont aussi envie de savoir qui je suis, pourquoi je pose ces questions, qu'est-ce que je fous là, à quoi ça va servir. Donc voilà, moi, je réponds à tout ça aussi. J'essaie plus de me cacher, en tout cas, comme peut-être j'ai fait plus au début de mes recherches. J'essaie plus de me cacher derrière mon micro. Je m'assume et je dis, regarde, moi, j'ai vécu ça, je sais pas, j'ai cru entendre que ça t'intéressait, est-ce qu'on pourrait en parler, ta. Donc c'est beaucoup plus ouvert et flexible comme parole, quoi.
Et puis c'est aussi le luxe, entre guillemets, du chercheur qui a quand même le temps que n'a pas le journaliste ou le...
Ouais, tout à fait. Ça, c'est un grand luxe, j'avoue. Passer plusieurs mois dans un endroit où... Ouais, non, c'est un grand luxe. Et puis du coup, on a le temps de développer des amitiés, mais de connaître des gens qui sont plus dans le milieu aussi. Parce que finalement, des fois, ces dernières années, plus les questions que je me pose aussi par rapport à l'utilisation du micro, c'est est-ce nécessaire que moi, j'aille... tendre le micro à quelqu'un, alors que cette parole-là, elle existe par ailleurs, je ne sais pas, dans des podcasts où elle existe. Voilà, peut-être que cette personne-là, elle ne voudra pas me parler. Donc moi, je vais lui faire violence en venant et en disant « Ah, réponds à ma question, réponds à ma question », alors qu'en fait, il y a déjà des chercheurs qui appartiennent à ce groupe-là, qui ont déjà fait des recherches super intéressantes. Il y a des gens qui interviennent sur les médias sociaux, ou sur Instagram ou ailleurs, et du coup voilà, je peux y avoir accès par un autre moyen. Je pense que ça s'est beaucoup développé aussi ces dernières années par rapport à ça. Donc maintenant, je me pose aussi la question de est-ce nécessaire, moi, d'aller tendre le micro? Est-ce que je devrais pas plutôt passer le micro? Et je pense que dans bien des cas, je passe le micro, je préfère passer le micro, en fait, si je peux.
Et ça t'arrive aussi d'écouter ce que des productions réalisées par d'autres chercheurs?
Oui, autant radiophonique, évidemment, tous les écrits et tout ça, mais je sais que ces dernières années, j'écoute des podcasts et je les trouve admirables, et j'aurais aimé, tu vois, que ça existe avant, mais finalement, ça existait sous forme de radio et tout ça, mais c'était pas aussi accessible, et c'était peut-être pas forcément les mêmes personnes qui intervenaient. Maintenant, c'est des personnes concernées par des problématiques particulières. Je prends l'exemple de Kif Taras, ou des personnes racisées qui prennent le micro, qui discutent des questions raciales. C'est des podcasts super pertinents, vraiment, vraiment très intéressants. Je pense à Putain de Podcast, qui est une travailleuse du sexe qui se dit, ben, moi, je veux parler à des collègues, amis, travailleuses du sexe. Et donc, c'est de l'intérieur directement qu'on a, quand on écoute ça, on a l'impression d'être à l'intérieur du truc, et pas d'avoir quelqu'un qui essaie d'interpréter et d'analyser leurs paroles. Non, il y a du vécu et de l'analyse, quoi. Donc quand on peut avoir accès à cette parole-là sur les ondes, oui, c'est très, très enrichissant. Et voilà, et c'est pas forcément nécessaire que nous, on aille avec notre... ignorance, finalement, de certaines problématiques, et c'est pas forcément nécessaire qu'on y aille, quoi.
Mais toi, quand tu les écoutes, ces podcasts, tu les écoutes comme spectatrice ou quand même comme chercheur, un peu comme chercheuse?
Je peux pas, en fait, c'est ça que je me dis, je peux pas ne pas les écouter comme chercheuse, et c'est pour ça que j'ai des discussions avec des amis qui écoutent des podcasts à peu près toute la journée. Moi, quand j'en écoute un, je suis à 100% là, je peux rien faire d'autre. Et souvent, ça me rentre dedans aussi selon les sujets qui sont abordés. Mais non, je fais vraiment de l'écoute. Je ne prends pas de notes. Mais disons que... Ah, si, certains. Quand c'est justement par rapport à mes recherches et tout ça, j'en prends des notes. Mais disons que c'est un moment... Là, quand je vois les bulles d'écoute ici qui sont organisées au festival, c'est ça, quoi. On ne fait rien d'autre qu'écouter. Donc, ouais, ça doit être des formations professionnelles, là. Je ne peux pas écouter ça de façon anodine, quoi.